L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. Ces gens, comme beaucoup d'autres, n'ont pas de travail fixe ni d'allocation chômage. Alors, ils se débrouillent à faire des petits boulots, comme l'on dit. Pour pas grand-chose, bien entendu. S'ils ne faisaient pas ça, ils n'auraient rien. À la rue, SDF. Là, avec parcimonie, en faisant très attention, payer ce qu'ils ont à payer, ils ont supprimé le superflu, pas de loisirs, de télé, acheter le moins cher possible, garder les vêtements le plus longtemps possible. La mère s'y connaît en raccommodage, ce n'est pas que les femmes modernes qui jettent tous leurs vêtements parce qu'elles ne savent pas faire une reprise ou ne veulent pas le faire. Les chaussures aussi, l'on en prend soin et l'on prend les plus robustes possibles. Tant pis pour la mode, adieu les baskets. L'on boit de l'eau du robinet, l'on mange des pommes de terre, du riz, des raviolis bon marché, des légumes de saison, s'ils ne sont pas trop chers. L'indispensable pour être propre, Javel, savon, de Marseille, lessive de grande surface. En faisant très attention, on arrive à clore son budget de fin de mois. C'est juste, mais l'on y arrive. Demi-heure plus tard, donc, chacun a ses occupations. Gilles quitte ses parents avec le vélo. À tout à l'heure, sa mère lui demande. Tu sais, quand tu vas rentrer? Non, je mets les journaux dans les boîtes aux lettres ce matin. Je ne sais pas pour combien de temps j'en aurai. Et il quitte l'appartement. Descend les quatre étages avec son vélo sur le dos. Il est obligé, c'est de mettre son vélo chez ses parents, parce qu'autrement, même avec un antivol, on le lui volerait. Dehors, il fait doux. Monte sur son vélo et descend la rue. Il va jusqu'au quai où il y a un dépôt de journaux à distribuer. Gilles aime le matin sentir l'air frais et nouveau sur lui. Il y a peu de voitures qui circulent. Il a l'impression c'est d'être seul au monde, dans un monde nouveau où tout peut arriver. Il a confiance en l'avenir. Il veut que lui et sa famille s'en sortent. Il ne voit pas sa vie sans sa famille. C'est pas comme ces jeunes de son âge qui ne pensent qu'à eux. Lui se voit réussir avec eux. Peut-être est-ce dû à la bonne union qui règne dans la famille et que les parents forment un vrai couple. Il arrive sur le quai. Là, il fait un peu de brouillard, quai du Rhône. Sa veste en laine et son foulard suffisent à peine pour qu'il ait chaud. Au début de sa course, il avait chaud, mais maintenant, c'est juste. Ses doigts sont gelés. Sa mère lui a promis, et lui promet toujours, qu'elle lui coudrerait, tricoterait des gants, mais elle n'a jamais le temps. Il s'arrête devant l'entrée d'un immeuble où, au rez-de-chaussée, est un pas de porte comme un hangar. Il y a une dizaine de jeunes comme lui en vélo qui font la queue. Lui va faire la queue aussi. Un jeune roux en jean et veste de cuir noir lui dit Il y a beaucoup de papiers à mettre ce matin. Il y aura du travail pour tout le monde. Au bout d'un quart d'heure, c'est le tour de Gilles. Un homme est assis à une table, petite moustache. Un homme est assis à une table, petite moustache, cheveux courts, chantant maigre, costume noir. Entouré d'un homme en voûte grise, fort, tête ronde, cheveux châtains. Gilles s'approche de la table et dit « Gilles le sueur ». L'homme à la table lui demande « Tu as déjà travaillé pour nous ?»«
Oui, monsieur, plusieurs fois. »
« Ah, oui, je vois, tu habites rue des Tables Claudiennes. Tu es le numéro 5552. Signe-la. » Gilles signe le registre. L'homme en blouse grise lui tend une sacoche en plastique verte remplie de journaux et de pubs. « Tiens, et voilà ton itinéraire. » Lui donne un papier. Merci. Et Gilles se retire. Il regarde l'itinéraire. Voit que c'est le quartier des Pentes. On lui donne toujours, peut-être parce qu'il y habite, ce quartier-là. Comme le centre-ville, ce n'est pas un bon quartier. Il faut faire de nombreux immeubles pour arriver à faire ce que font les autres en banlieue en un seul. Et c'est pas facile pour entrer dans les allées. Elles sont toutes fermées, et même des fois à double porte. Tu franchis une porte, puis une autre, et chacune a un code ou autre différent. Pour certaines, tu es obligé, c'est de demander à des locataires de t'ouvrir. Là, la plupart, ils rouspètent. Ils disent que c'est faux. Alors, de Gerlache, l'on compte sur l'interphone les noms et l'on laisse à terre, près de l'entrée, le nombre de journaux. Souvent, les journaux sont pris, jetés. Et vont dans toute la rue. Il y a des plaintes que la mairie envoie aux distributeurs qui, eux, engueulent le livreur. On ne le paye pas, etc. Le livreur a beau expliquer, rien n'y fait. Lui, Gilles, ne peut pas mettre dans les boîtes aux lettres, s'il ne laisse pas à terre, près de la porte de l'allée, tant pis. Il retourne plusieurs fois et attend que l'allée soit ouverte par les poubelles ou le facteur, parce qu'il ne veut pas laisser ses pubs et ses journaux comme ça et que ça salisse toute la rue. Et puis, certaines personnes rouspètent qu'elles n'ont pas eu le journal à pub gratuite. Ce travail n'est pas facile. Lorsqu'il entre dans une année, il ne sait pas sur qui il risque de tomber. Dans une allée, une petite vieille maigre, cheveux gris, en broussailles, robe de chambre rouge, dessous une chemise de nuit blanche, charentaise rouge. Elle le regarde bien. Il dit « Je viens mettre les journaux. » Elle lui dit « Je le sais. Fais attention, le facteur n'est pas content. Il faut qu'il ait de la place. Enfonce bien dans la boîte aux lettres. » C'est ce que fait Gilles. « Encore plus !»
Il enfonce plus. Elle lui dit
« Pas celui-là, ça ne sert à rien, etc. »
Normalement, il doit mettre les pubs après le facteur, puisque le facteur est prioritaire pour les boîtes aux lettres.
Gilles n'est plus sur son vélo, il ne pédale plus. Les immeubles sont les uns contre les autres. Il tient son vélo d'une main et de l'autre sa sacoche. Il a froid et c'est lourd.
Mais il faut bien le faire si on veut un peu d'argent pour aider sa famille. Son travail ne fait pas trop marcher sa tête et il peut vagabonder comme il peut. Certains ont des MP3 qu'ils écoutent en travaillant. Lui n'en a pas, c'est trop cher pour lui. Et puis, il donne tout ce qu'il gagne à sa mère. Les jeunes de son âge gardent l'argent pour eux, même si leurs parents ont des difficultés. Lorsqu'il travaille, Gilles rêve d'une vie meilleure avec ses parents et lui. Vie meilleure ne veut pas dire vie de luxe, non, une vie simple, oui, vivre simplement, sans être obligé de compter constamment pour des choses nécessaires, pour le strict nécessaire. Non, lui, il veut simplement une vie tranquille, sans luxe.
Pendant que Gilles fait sa tournée, son père va chez un copain qui déménage. Il lui a promis une petite somme et un casse-croûte, un bon casse-croûte. Il y va, c'est rue Saint-Sébastien. Il doit déménager un appartement qui se trouve dans un vieil immeuble de 5 étages, sans ascenseur, et le gars habite le 5e. En bas de l'immeuble, il y a une vieille camionnette bleue.
Il monte jusqu'au 5e étage. La porte de l'appartement est ouverte. Des cartons à terre, des meubles dans tous les sens. Un bon gros, l'air jovial, cheveux courts gris, habillé d'un pull vert et d'un pantalon gris. Lorsqu'il voit Jules, il lui dit « Salut, ça va ?»«
Oui, merci. »« T'es l'attaque ?»«
Oui. »
L'autre lui dit « Tu veux boire un coup avant de commencer ?»
Il lui montre une caisse où il y a 1 litre de vin et de verre.
« Non, merci. On n'est que tous les deux ?»«
Oui, les autres ne vont pas tarder à arriver.
Mais on peut commencer ?» Si tu veux bien.
Oui.
Il dit, viens voir.
Il lui montre un buffet en bois, aussi important et lourd.
L'autre lui dit,
j'ai déjà soufflé. La porte de l'appartement est ouverte. Des cartons à terre, des meubles dans tous les sens. Un bon gros, l'air jovial, cheveux courts, gris, habillé d'un vieux pull vert et d'un pantalon gris. Il va vers Jules et lui dit
« Salut, ça va ?»«
Oui, ça va, merci. »
L'autre lui demande
« T'es l'attaque ?»
Jules,
Je lui dis « Oui ». L'autre lui dit « Tu veux boire un coup avant de commencer ?» Il lui montre une caisse où il y a dessus un litre de vin et de verre. « Non, merci. On n'est que tous les deux ?» L'autre lui dit « Oui, les autres ne vont pas tarder à arriver. Mais on va commencer, si tu veux. Oui ?» Il lui dit « Viens voir. » Il lui montre un buffet qui est très important et lourd. L'autre lui dit « On peut commencer par ça, parce qu'il va prendre beaucoup de place dans la camionnette. Tu es d'accord ? Oui ? Alors, allons-y, on le prend. » Ouais, on le prend pour descendre. Pour le mettre... Attends, comment on va faire ? Je le regarde et dis, il faut faire le passage et placer les cartons. T'as raison, toi. On voit que tu fais ça depuis longtemps. Non, c'est la première fois. Et déplace les paquets pour faire un passage. Voilà. Ce travail de dépasser les paquets lui fait déjà mal aux reins. Pauvre Jules, mais ne le montre pas. Je dis en lui-même, encore un travail de con pour gagner rien du tout. Puis, il pousse le meuble pendant que l'autre con le pousse, le tire. Arriver vers les escaliers, ça se complique. Comment descendre ce foutu merdier dans un escalier étroit et qui tourne en plus ? 5 étages. Jules a envie, c'est de balancer cette chose. Il monte. Et... cette chose immonde qui encombre les escaliers. Oui, balancer tout ça dans les escaliers. Il demande, qu'est-ce qu'on fait ? L'autre lui dit, eh ben quoi ? On descend ? Comment ? Tu tires, tu pousses, je tire, je pousse. Je lui dis, tu vois que les escaliers sont étroits et qu'ils tournent. Ton meuble va prendre toute la place. Et comment allons-nous faire ? En plus, il n'y a pas de prise. Il réfléchit une minute et dit « On pourrait peut-être, pour avoir plus de prise, si on enlève les portes et les tiroirs. » L'autre lui dit « Ah oui, on va prendre du temps après pour les remettre. » Je lui dis « Non, mon vieux. Tu vois qu'on va en gagner parce que en le montant et le démontant, ce sera plus facile et rapide pour le descendre et le remonter. » L'autre soupire dit « Bon, remettons le meuble dans l'appartement. » Je lui demande « Pourquoi ? Tu peux tout aussi bien le faire sur le palier. Va chercher un tournevis. » L'autre tourne à son appartement. Jules entend ce con rouspéter, chercher ses outils. Il se dit qu'il n'a aucun sens de l'organisation. C'est pas comme avec son pote avec qui il a fait son déménagement, le Lefort. Enfin, il revient avec sa boîte à outils. Elle est ouverte, il cherche. trouve les tournevis. Une fois qu'il a trouvé les tournevis, il démonte les portes du meuble et enlève les tiroirs qu'ils vont mettre dans l'appartement. Je lui dis: voilà, ton meuble est moins lourd. Il n'y a plus de prise. On peut le soulever dans les tournants. Mets-toi derrière et on y va. Juste se met dedans. Il prend le meuble où se trouve le vide qu'il a fait en enlevant les portes. Une main en haut, l'autre en bas, le soulève et descend marche par marche. Il dit à l'autre: tu soutiens pour éviter qu'il me tombe dessus. Jules marche, fait marche par marche. L'autre va trop vite. Je lui dis: pas si vite, fais marche par marche. L'autre lui dit: mais un pour la journée comme ça. Je lui dis agacé: tu n'avais qu'à avoir un homme plus petit ou faire ton déménagement par des pros. Le plus dur, c'est lorsque les escaliers tournent. Là, il faut soulever le meuble pour le tourner. Et il y a peu de place. Enfin, ils sont arrivés en bas, épuisés. Mal de partout. Il faut encore mettre cette merde dans la camionnette. Elle n'est pas très grande. Jules se dit qu'ils vont être obligés, c'est de faire plusieurs voyages. Ils mettent le meuble dans la camionnette, ouf. Puis, ils font deux ou trois voyage pour mettre deux ou trois bricoles avec. Et livrer le tout trois immeubles plus loin. Là aussi, il faut monter les quatre étages comme l'autre. Mettre les meubles en place dans l'appartement. Et remonter le grand meuble. Le con a oublié sa trousse à outils. Il a fallu qu'il y retourne. Jules est vite épuisé, mais ne le montre pas. Même à midi, il a eu droit à un casse-croûte. Tu parles du pain, du saucisson et du fromage. Pas de quoi crier victoire. Il a eu faim et mal au dos. Et la journée se passe comme ça. Denise est chez sa patronne, une femme qui lui demande de faire le ménage chez elle. Cette vieille femme, petite, maigre, cheveux gris, impeccable, robe marine, est très sérieuse pour le ménage, très sévère. Il faut faire très attention. Il faut mettre les bibelots. Et elle en a un gros paquet sur la table qui a été recouverte d'un drap
est nettoyer le buffet, puis avant de remettre le bibelot sur le buffet, les épousseter. L'appartement est meublé de vieux meubles 1930. Il est bien encombré. En plus des bibelots, il y a des plantes, des photos de famille, etc. Ça prend du temps. La vieille est toujours là à surveiller ce qu'elle va faire. Il faut aussi laver par terre et le linge. La vieille la paye chaque jour. Elle lui dit « Tenez ma fille !»«
Merci Madame Roland, à demain !»« C'est ça, à demain !»
Elle dit ça comme si elle disait à Denise « Compte dessus, ma petite. » Un jour avant qu'elle ne parte, la vieille lui donne un paquet.
« Mettrai ça à la poubelle, ma fille. »«
Qu'est-ce que c'est ?»«
De vieux doubles rideaux. »«
Je peux voir ?»«
Si vous voulez. »
Elle regarde et voit que le tissu est très beau et bon. Il est beige avec de petites fleurs rouges. Le tissu est assez épais, mais souple.
Elle dit « Que c'est joli !»
La vieille lui dit
« Vous trouvez ?»«
Oui, je peux le prendre. »«
Qu'est-ce que vous voulez en faire ?» Denise lui dit
« Peut-être une robe. »
La vieille lui dit
« Avec ça ?»
Denise lui dit
« Oui, c'est très beau. »
Bien, faites ce que vous voudrez, ma fille.
Et Denise, toute heureuse, entre chez elle avec le tissu. Vite, elle regarde ses patrons, se trouve une robe simple, mais qui ira bien avec le tissu. Et une semaine plus tard, elle a fini sa robe, toute heureuse. Elle la montre à son mari et à Gilles. Son mari lui demande...
Où as-tu acheté cette robe et avec quel argent ?
Elle lui dit,
je l'ai faite moi-même dans un tissu que m'a donné la Roland.
Gilles lui dit,
tu es très belle, maman.
La mère lui dit, merci, mon chéri.
Mais tout à coup, elle se souvient
et la honte de s'être fait cette robe alors que son Gilles n'a pas de gants. Ça fait des semaines qu'elle lui en parle. Elle l'embrasse et lui dit
« Je te promets que tu auras tes gants très bientôt. »
Gilles lui dit « Ça va, merci. » Dans le quartier, sous son manteau vert, on a remarqué sa robe. Elle est toute fière et tous la trouvent très belle et croient qu'elle a été achetée dans une boutique. Au marché, la marchande de légumes, une grosse femme joviale à cheveux frisés blancs, pull blanc, pull blanc.
Tout avec un héritage.
Denise confuse.
Pensez-vous, c'est qu'une simple robe que j'ai faite avec du vieux tissu. Tenez, touchez.
La marchande touche et voit que le tissu est un peu usé. Denise lui dit,
c'est la Roland qui a voulu jeter le tissu.
Alors je l'ai pris, la marchande lui dit,
vous avez bien fait, vous avez eu raison, ma fille. Ça vous va très bien.
Merci.
Alors, qu'est-ce que je vous sers ?
Denise lui dit,
comme d'habitude, 3 kilos de pommes de terre et 1 kilo de carottes.
Et la marchande la sert. La marchande, malgré elle, est heureuse que Denise ait resté la même.
c'est-à-dire toujours aussi pauvre. On n'aime pas que les pauvres soient plus riches ou plus à l'aise, même s'ils achètent plus. On veut que les gens restent comme ils sont, parce que s'ils changent, toujours, on ne sait pas sur qui on a affaire. Oui, on ne sait pas sur qui on a affaire s'ils changent constamment.
Denise entre la première dans l'appartement. Elle a déposé sur la table de la cuisine les provisions.
Et va à sa chambre se changer.
Sort de sa chambre en blouse et pantoufles. Va à la cuisine.
Bon. Réfléchis à ce qu'elle va faire pour midi. Je ne rentre que ce soir.
Elle regarde dans le réfrigérateur.
Voit qu'à l'intérieur, il ne reste pas grand-chose. Il y a tout de même 5 œufs. Ils les mangeront ce soir avec le père, parce qu'il sera sûrement très fatigué.
Il ne mange presque jamais de viande, c'est trop cher. Les œufs la remplacent. À midi, elle va faire de la salade de pommes de terre.
Oui.
Et puisqu'il y a du reste de lentilles, elle en fera. Voilà. Elle soupire et se dit,
pauvre Gilles, lui aussi, a bien besoin de manger. Il aurait besoin de mieux manger avec ce qu'il fait. Soupire.
Prend un journal sous l'évier, l'ouvre sur la table. Un couteau et s'assoit pour éplucher les pommes de terre.
Deux heures plus tard,
les pommes de terre dans une casserole chauffent sur la cuisinière. Et dans une autre casserole, il y a les lentilles.
La porte s'ouvre.
Elle va voir.
C'est son Gilles qui est arrivé avec son vélo. Le pauvre, il est tout frigorifié, le nez et les mains rouges.
Sa mère lui demande, « Ça s'est bien passé ?»«
Oui, comme d'habitude, maman. »
Pose son vélo et enlève sa veste.
Sa mère lui demande, « Tu n'as pas eu trop froid, mon pauvre Gilou ?»«
Non. » Comme d'habitude.
Il en lâche sa mère. Met un baiser sur la joue.
Elle a senti ses lèvres gelées.
Gênée, elle lui dit « Je te ferai tes gants. »
« Ça peut attendre. Tiens. »
Il lui tend des billets.
Elle lui demande
« Tu en veux ?»«
Non, merci. »
« Tu ne me demandes jamais rien, mon pauvre Gilou. »
Il lui dit « Parce que j'ai tout. Je suis bien comme ça. »
Il la prend dans ses bras.
« Te fais pas de soucis, maman. »
Elle met l'argent dans sa poche et lui dit « J'ai préparé le repas, des pommes de terre et des lentilles. »
Il lui dit « C'est parfait. »
Elle lui dit
« Tout est bien avec toi.
J'ai des œufs, mais nous les mangeons ce soir avec ton père.
Il va être fatigué avec son déménagement.
Tu as raison. »
Elle lui dit « Va te chauffer les mains et l'on mange. »
Il la quitte.
Puis, il retrouve sa mère à la cuisine.
S'assoit à sa place.
Elle lui sert les pommes de terre. Je serai pour elle aussi. Les pommes de terre,
cuites à l'eau, coupées en petits cubes.
Après avoir fait le service, elle lui dit
« C'est peut-être pas très nourrissant, mais ça réchauffe le ventre. »
Et ils rient tous deux. Et oui, la vie est dure. L'on fait avec ce que l'on peut.
Tout en mangeant, elle lui demande ce qu'il va faire cet après-midi.
« Je ne sais pas, rien de prévu, et toi ?»
Elle lui dit « Moi non plus, je vais faire la lessive. »
Gilles passe ses journées dans sa chambre à lire des romans qu'il trouve et sa mère, à la salle d'eau, à faire le linge. De temps en temps, chacun va voir l'autre. Il se sourit pour se dire que tout va bien.
La télévision est exclue de leur vie, mais cela renforce les liens familiaux.
On se voit plus et l'on s'entend aussi.
La télévision, c'est bien, mais ça détruit la famille.
Ça rend les gens consommateurs et ne parlent que de ce qu'ils voudraient acheter.
La radio n'est écoutée que 5 minutes par jour pour les infos.
La radio aussi joue le même rôle et est aussi débile que la télévision, peut-être même plus. Mais on n'en parle pas parce que les intellos l'aiment bien.
Début de soirée, la mère va cuire ses œufs. Ses œufs, elle va les cuire à la coque et réchauffer les pommes de terre et les lentilles.
Le père entre enfin.
Il est tout courbaturé.
Denise accourt à lui.
Elle lui demande
« Qu'as-tu ?»«
J'ai mal aux reins. J'en peux plus. »
Elle aide à quitter sa veste.
Lui dit
« Va t'étendre. Je vais te frictionner. »
Il lui tend des billets.
« Tiens, il m'a donné que ça. »
Elle le regarde et dit
« C'est déjà ça. Mais il aurait pu te donner plus. »
Gilles va vers son père. Il le maintient et le mène à sa chambre.
Là,
On lui enlève sa chemise et son maillot de corps. La mère arrive et leur dit « Il faut qu'il soit sur le ventre. » C'est ce qu'il fait. Elle s'assoit sur le rebord du lit. Elle lui frictionne le dos. « Tu vois, ça te fait du bien. »«
Merci. J'ai faim. »
« Le repas est prêt. Tes œufs, il dit. »«
Encore ?»
Elle dit. « La viande, c'est cher, mon vieux. » Il soupire.
Cela fait des mois qu'il n'a pas mangé de viande. Il en rêve la nuit. Le soir après le repas, qui a été tout de même bon, ils sont restés à la cuisine. Parce que comme la cuisinière a chauffé, ils n'ont pas besoin de mettre le chauffage. Cela fait des économies de chauffage. Gilles donne à son père le journal d'annonce qu'il a eu à mettre dans les boîtes aux lettres. Il en donne toujours un exemplaire, comme ça, ça sert pour mettre les ordures. Maman a un sort d'eau, met à sécher le linge. Gilles va la voir.
Tu as besoin d'aide, maman?
Elle lui répond. Non, ça va, mon chéri.
Et Gilles retourne à la cuisine. Son père, tout en lisant, lui demande.
Tu travailles demain?
Gilles lui répond, « Oui, il y a encore de la pub à mettre. » Et Gilles reprend son livre. Il lit Jacques London en se demandant que si lui a eu des temps difficiles comme eux, peut-être même plus. Vers les 10 heures, ils vont se coucher.
« Bonne nuit, maman.
Bonne nuit, mon Gilou.
Bonne nuit, pas. »
Bonne nuit, mon grand.
Et Gilles entre dans sa chambre. Il se déshabille. Dans l'armoire son pyjama, le met et se couche sous les draps raides et froids.
Il a des difficultés à trouver le sommeil, mais toutes les nuits, il essaye, c'est de s'imaginer son avenir. Quel avenir, lorsqu'on n'a rien? Il se dit qu'il n'a rien, mais qu'il a de la chance. Comme ça, il peut remplir ce vide, tandis que ceux qui ont ne peuvent plus le faire. Pour lui, tout est possible. Il peut prendre toutes les routes, bien sûr les bonnes. Il veut rester honnête. Oui, honnête. À quoi? À qui? Tout d'abord, à lui-même, puis vis-à-vis de ceux qu'il aime. Pour lui, c'est ça, être vraiment honnête. La société, les autres, oui, bien sûr, mais la société n'a jamais rien fait pour lui. Lui et sa famille n'ont fait que se débrouiller tout seul. Ils s'en sortent avec beaucoup de courage, mais c'est dur. Gilles rêve d'une vie peut-être moins dure, mais
un peu meilleur. Il est réaliste, il sait qu'il faut se contenter de peu. Malgré tout, il est toujours de bonne humeur, il ne demande jamais rien. Les jours passent, l'hiver est long, long cette année. Il fait aussi très froid. Denise a eu le temps de faire ses gants en laine à son gilou. Elle lui a fait avec de la laine d'un vieux pull qu'elle a trouvé près d'une poubelle. Les gants sont rouges, pas très chauds, et la taille est approximative. Les doigts sont difficiles à faire. Ils ont tous des tailles différentes. Gilles est heureux d'avoir des gants, mais ça ne l'empêche pas d'avoir les mains gelées. Mais elle, il les sent moins gelées. Pour ne pas faire de peine à sa mère, il les enlève qu'à la salle de bain. Et là, essaye de se chauffer les mains pour qu'elles soient moins rouges. Comme ça, elle les verra. Elle dira qu'elle a bien fait de les lui faire, ses gants. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.